Les informations, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Le dimanche de Pâques, célébré par les catholiques du monde entier à Paris cette année, c'est bien sûr un petit peu particulier.
Lundi, la cathédrale Notre-Dame a brûlé. Toutes les célébrations du week-end ont été déplacées, comme la veillée pascale. Hier, reportage à l'église Saint-Sulpice dans un instant. 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Moins de monde en général, mais plus à Paris. Cet acte 23 était le dernier rendez-vous avant les annonces d'Emmanuel Macron jeudi. On verra ce que vous en attendez. Et puis, que faire en ce dimanche de Pâques très ensoleillé? Pourquoi pas un tour en barque? On vous emmène en Picardie.
Europe 1. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est Pâques, bien sûr, l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, pour les catholiques en particulier.
Une fête joyeuse, puisqu'elle célèbre effectivement la résurrection de Jésus, sauf que pour beaucoup, cette année, c'est un petit peu différent. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, la veillée pascale, par exemple, a dû se dérouler ailleurs, en l'église de Saint-Sulpice, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Une veillée où la cathédrale de Notre-Dame, évidemment, était très présente dans l'esprit de beaucoup de fidèles. Reportage Pauline Jacquot.
Elle vient d'éteindre et de déposer la bougie qu'elle a tenue à la main pendant la veillée. Encore affectée par l'incendie de Notre-Dame, Muriel quitte l'église Saint-Sulpice, particulièrement émue par cette célébration.
C'est à part, cette année c'est vraiment quelque chose d'à part. Chacun a un cierge, il y a de la lumière, il y a de la chanson, c'est très très prenant, vraiment.
Vous aussi, sur les bancs de cette église, vous avez pensé à cette cathédrale? Qu'est-ce que vous êtes dit?
Qu'elle va revenir, vous allez voir. Elle va être encore plus magique qu'avant.
Communier avec Notre-Dame par la pensée, mais aussi se rapprocher physiquement de ses murs. Exceptionnellement, Armand et Patricia n'ont pas voulu prier dans leur église habituelle en région parisienne.
J'ai dit à mon mari, j'aimerais bien qu'on soit à Saint-Sulpice, au plus près de Notre-Dame, on va dire. C'était absolument magnifique entre les orgues et les chorales, les chanteurs. C'était bouleversant, ouais.
On est tous ensemble, même dans les moments difficiles. Et puis en fait, aujourd'hui, c'était un moment de joie. Malgré tout, c'est la Pâque, c'est la résurrection, c'est la joie. Et je pense que finalement, c'est la joie qui va l'emporter, quoi.
Notre-Dame, un déchirement plein d'espoir, glisse finalement Élodie avant de rentrer chez elle. Symbole de Pâques, dit-elle, de la Renaissance et de la capacité des croyants à être ensemble malgré les épreuves.
Et la messe de Pâques sera célébrée cette année à 11h à Saint-Eustache, près des Halles, dans le centre de Paris, au lieu de Notre-Dame. Notre-Dame qui, malgré quelques points sensibles sur la voûte, est quasi sauvée. Déclaration de Franck Riester, ministre de la Culture, hier. Il reste à retirer des gravats, mais la cathédrale, pour le reste, est sécurisée.
28 000 gilets jaunes hier dans les rues des grandes villes de France.
Sur l'ensemble du territoire, la mobilisation est un peu moins importante que les semaines passées. En revanche, elle est en hausse à Paris où 9 000 personnes, selon les forces de l'ordre, ont été recensées. Une journée marquée par des tensions dans la capitale. 178 personnes ont été placées en garde à vue. Cet ultimatum, en tout cas, était pour les gilets jaunes le dernier coup de pression avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron. C'est jeudi qu'il tirera les conclusions du grand débat et devrait, par exemple, annoncer la suppression de l'ENA, la réindexation des retraites. Ces pistes vont-elles satisfaire les manifestants? Hélène Terzian leur a posé la question.
On est déçus. La suppression de l'ENA, entre nous, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Hein. C'est pas ça qui va faire changer les choses. C'est pour le pouvoir d'achat, pour la justice fiscale. Donc nous, on est dans l'expectative et puis honnêtement, on n'attend plus rien, quoi.
On attend qu'ils fichent le camp, qu'il y ait dissolution de l'Assemblée et la mise en place du RIC. Il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir. Tout le restant, c'est du baratin. Elle est de combien, la réindexation, vous la connaissez? Non, mais ça va faire 1,5%. Sur une salaire de 800 balles, ça va faire quoi? 4 euros.
J'attends un changement politique, de répartir les richesses autrement, de rétablir l'ISF tout d'abord, même si c'est un symbole, mais c'est quand même 3 ou 4 milliards d'euros. On aurait de quoi donner 20 000 euros par SDF. Il y a eu des centaines de morts cet hiver. Ça me touche. Des centaines de morts. C'est pas des pierres, c'est pas un incendie. Alors que Macron avait dit qu'il n'y aurait plus un SDF.
Des gilets jaunes hier au micro d'Hélène Terzian. Les réponses sont donc attendues jeudi. En attendant, Emmanuel Macron a quitté l'Élysée pour le Touquet où il va passer le dimanche de Pâques en famille.
Et quelles que soient les mesures prises et annoncées par le chef de l'État jeudi, les Français ont une priorité absolue, la baisse des impôts.
Mes questions, comment la financer? Le chef de l'État a bien une idée parmi les solutions, faire travailler davantage les Français. Oui mais voilà, d'après un baromètre IFOP pour le journal du dimanche, vous êtes 54% à être en désaccord avec cette proposition. Alors, quelles sont les possibilités envisagées derrière ce travailler plus? Écoutez Rémi Dessart du JDD.
Il y a une première grande piste qui consiste à retarder l'âge de départ à la retraite. Ça permettra de financer le système de retraite par points. Ensuite, la deuxième grande piste, c'est d'augmenter la durée hebdomadaire du travail, de remettre en cause la semaine de 35 heures. Mais il y a une troisième piste, et c'est celle que le gouvernement semble privilégier à court terme, c'est celle de renoncer à un deuxième jour férié après celui de la Pentecôte. Alors là, l'idée, c'est évidemment de dire on augmente les recettes de cotisations sociales, on donne un coup de boost à l'économie. Très curieusement, la mesure à laquelle songe le gouvernement est la plus rejetée. 14% seulement des Français, d'après notre sondage IFOP, semblent accepter l'idée qu'on puisse renoncer à un jour férié. Les 35 heures, c'est un peu plus accepté, mais c'est 41% seulement des Français qui pensent qu'on pourrait le faire. Et les patrons eux-mêmes n'y sont pas favorables. Et retarder l'âge de la retraite, 25% seulement. Donc on voit que de toute façon, les Français ne sont pas prêts à ce qu'on touche à la durée du travail. Et c'est peut-être ça qui va donner lieu à une nouvelle bataille du temps de travail.
Rémi Dessart du Journal du Dimanche, interrogé par Aude Vernuccio.
La suite de ce journal, dans un court instant, nous continuons de parler de Pâques, mais cette fois-ci, place aux enfants, c'est aussi une grande fête pour les enfants qui, vous le savez, aujourd'hui en particulier, vont partir à la chasse aux œufs. A tout de suite.
Il est 6h06 sur Europe 1.
6h-9h, Bernard Poirette sur Europe 1.
Suite de l'info, Lénaïque Moynier, Bernard Poirette.
Lénaïque, qui dit Pâques, dit chocolat, bien sûr. Et du coup, chasse aux œufs aussi, pour les plus petits.
On en cache beaucoup, on en mange un peu, et au final, chaque année, il en reste beaucoup trop. Alors, au lieu de gaspiller, comment faire tenir dans la durée ces petites fritures et autres gourmandises, sans pour autant se rendre malade? Ève Roger a posé la question au professeur Perlmutter. Il est chef de service hépato-gastro-entéro de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart.
Moi, ce que je conseille, si vous voulez, c'est plutôt de ranger l'œuf pour pas que ce soit des tentations et favoriser la tentation. Et puis, par exemple, ne pas le prendre à jeun, mais par exemple au dîner, après le dîner, eh bien, vous partagez en famille un carré de chocolat, deux carrés de chocolat, un bout d'œuf, et là, tout se passera bien. Parce que quand vous mangez à jeun quelque chose de sucré, en fait, vous allez avoir une sécrétion brutale d'insuline, parce que le chocolat est un produit sucré, et pour cette sécrétion d'insuline, vous allez vous mettre à stocker. Alors que si vous mangez le chocolat à la fin d'un repas, le sucre du chocolat va être mélangé à tout le sucre du repas et donc vous aurez une sécrétion d'insuline globale sans pic successif et vous allez moins stocker à ce moment-là.
Les astuces du professeur Perlmutter, qui est aussi auteur d'un livre « Les pouvoirs cachés du foie », c'est aux éditions Flammarion.
Ce week-end de Pâques et de chasse aux œufs, ce sera sous le soleil. Vous avez peut-être profité de cette météo déjà hier, c'était quasi estival.
Quoi de mieux pour le premier week-end prolongé de l'année? Les bons plans sortis ne manquent pas évidemment, comme par exemple cette balade en barque dans les marais picards, les ortillonnages d'Amiens. Et c'est un reportage de Claudia Bertram.
Un havre de paix en plein cœur de la ville, 65 km de canaux au milieu de jardins flottants. Un site construit par l'homme il y a plus de 2000 ans pour le maraîchage.
Aujourd'hui, il en reste 300 hectares.
L'histoire est racontée par le batelier qui pilote la barque. Il montre la faune et la flore à ses passagers.
Le bel arbre en fleurs à gauche, c'est un cognassier.
Après 45 minutes de balade, les avis sont unanimes.
C'est très agréable, c'est calme, reposant, on profite de la nature.
Il y avait des belles poules d'eau et des canards, des canetons.
Il y avait des belles cabanes, des belles fleurs.
Et en plus, c'est vraiment une belle journée. On a vraiment de la chance pour ce beau week-end de Pâques.
On découvre plein de choses, comment les gens vivaient un petit peu avant, les maraîchers, les ortillonnages, comment ils sont exploités.
Une balade pédagogique aime à revendiquer le président de l'Association pour la protection et la sauvegarde des ortillonnages, Jacques Lelier.
La raison d'être, c'est la protection et la sauvegarde. Faire les travaux, réparer les berges. Et la deuxième, c'est le tourisme. Et la deuxième mission permet d'assurer la première. 100% des recettes du tourisme vont à l'entretien du site sous toute forme ou sous une autre.
Et avec une météo quasi estivale, ce week-end de Pâques lance la saison des balades qui durera jusqu'au 31 octobre. Amiens, Claudia Bertram, Europe 1.
Et comme les températures sont très douces encore, vous pouvez y aller aujourd'hui donc dans ces ortillonnages d'Amiens.
Et je vous le conseille vivement d'ailleurs, Lénaïque. Je ne sais pas si vous connaissez les ortillonnages, mais c'est un endroit absolument génial.
Et à 6h09, place au sport maintenant avec Lénaïque Moynier.
On commence par le rugby, si vous le voulez bien, Lénaïque. Toulouse joue très gros cet après-midi. Les rugbymen du stade toulousain sont en effet en demi-finale de Coupe d'Europe.
Des rouges et noirs opposés à 16h15 aux Irlandais du Leinster. Autrement dit, c'est l'un des face-à-face entre les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la Grande Coupe d'Europe. C'est en plus le dernier club français engagé. Alors autant y aller sans complexe, comme nous l'explique Antoine Dupont, demi de mêlée de Toulouse.
Comme pas mal de joueurs de l'équipe, ça va être notre première demi-finale européenne, mais... Voilà, je pense qu'on n'a rien à perdre. C'est sûr qu'on n'est pas favori, que on va aller là-bas et tout le monde va penser que le Leinster va gagner. Mais voilà, on a pas de pression à avoir, juste jouer notre carte à fond, jouer notre rugby et voilà, pas être sans complexe, parce que de toute façon, c'est notre salut passera par notre jeu, parce qu'il a fait notre force sur toute la saison et il faudra qu'on le réitère dimanche si on veut espérer quelque chose.
Antoine Dupont avec Simon Rubin. Dans le challenge européen, la petite Coupe d'Europe, la finale opposera Clermont à La Rochelle. Les deux clubs français sont passés hier.
La suite de la 33e journée de Ligue 1 de football avec cette question. Le PSG va-t-il enfin être sacré champion de France ?
Après 3 tentatives ratées, Paris espère ce soir fêter son titre, le 8e de son histoire, face à Monaco. Il faut boucler la boucle pour aborder sereinement la finale de la Coupe de France face à Rennes samedi prochain. Et pour Thomas Tuchel, le PSG entame une semaine décisive.
Ce sont les deux matchs pour moi, ce sont les deux matchs très très importants pour finir cette saison dans une manière que l'équipe a mérité, parce qu'on a, joué une saison très 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 forte jusqu'à ce moment, et maintenant c'est le moment pour finir, gagner ce championnat et pour gagner la Coupe de France, parce que ça c'est notre objectif dans un club comme PSG.
Thomas Tuchel avec Julien Froment. Au programme aussi Nantes-Amiens et Toulouse-Lille. Reims reçoit Saint-Etienne. Hier, Marseille gagnait 3-1 à Guingamp. Victoire de Nîmes contre Bordeaux. Montpellier s'est placé en battant Strasbourg 3-1. Victoire également de Caen, c'était face à Nice.
Et le roi de la terre battue est déchu à Monaco.
Raphaël Nadal, vainqueur à 11 reprises sur le rocher, a perdu sa demi-finale face à l'Italien Fonini. C'est inattendu, un adversaire en pleine forme en tout cas hier, et qui a su tirer l'avantage d'une drôle de météo avec de grosses bourrasques de vent, très perturbantes apparemment pour l'Espagnol. Écoutez l'analyse de Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams et consultant Eurosport.
Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Rafa aurait quand même gagné en jouant comme aujourd'hui contre probablement 90% des joueurs du circuit. Donc il faut donner quand même beaucoup de crédit à Fabio qui a fait un match exceptionnel. Il faut le dire quand même, les conditions de jeu sont particulièrement difficiles. Le vent souffle énormément, il souffle dans tous les sens d'ailleurs. Il n'y a pas un sens particulier, ce qui rend les choses encore plus difficiles parce qu'on ne peut pas tellement s'y adapter. Et jouer ce genre de joueur dans des conditions comme aujourd'hui, c'était doublement difficile pour lui.
Patrick Mouratoglou, interrogé par Frédéric Hélion. Finale complètement inattendue donc à Monaco cet après-midi, puisque face à Fonini, on retrouvera le Serbe Dusan Lajovic, 42e mondial. Alors que chez les dames, on suivra évidemment la fin de la demi-finale de la Fed Cup France-Roumanie. Il y a un partout entre les deux équipes.
Absolument, un partout à Rouen hier, après les deux premiers simples entre les Françaises et les Roumaines. Donc forcément, c'est très acharné. Merci beaucoup Lénaïque Meunier. Elle revient tout à l'heure pour le journal de 7h.
C'est votre matinale du week-end à 6h13 sur Europe 1.
Et tout de suite, les chevaux et l'homme des chevaux sur Europe 1 s'appelle José Coves. José, bonjour.
Bernard, bonjour.
C'est le grand saut ce dimanche à Auteuil avec le prix Notre-Dame de Paris. Ce steeple très prisé a réuni 19 sauteurs sur 4700 mètres.
De ce peloton compact, j'ai d'abord retenu le numéro 3, Accentus, deuxième battu d'un poids donné lors de l'édition 2018. Il revient plus fort que jamais. It's Jennifer, le numéro 8, après un bon tour de chauffe dans l'épreuve préparatoire, est prête pour l'exploit. Kaffir Titi, le 4, a déjà brillé sur son parcours du combattant de l'obstacle. Cocody du Banco, le 13, parce que sa montée en puissance arrive au bon moment. Quant au 9, Go For The Well, 5e l'an passé, malgré son inexpérience, il est cette fois beaucoup plus endurci. Pour ceux qui veulent investir, le 18, Chef de Kervignou, il possède de solides références. Le 17, Radiologue, d'une générosité exemplaire. Et enfin, le 16, Mongerou. Sa dernière 4e place à ce niveau est à prendre très au sérieux. Voici donc mon ticket pour la 3e course vers 15h15. D'abord, le 3, le 8, le 4, le 13 et le 9. Et ensuite, le 18, le 17 et le 16.
Je me permets de répéter, José, 3, 5, 8... 4, 13, 9, 18, 17 et 16, c'est votre choix de chevaux. Donc pour ce prix Notre-Dame de Paris, en fait, vous le savez, il s'agit du prix du président de la République qui a été rebaptisé cette semaine à l'occasion de l'incendie de la cathédrale de Paris, prix Notre-Dame de Paris.
Et vous retrouvez tous les pronostics de José Coves sur notre site europe1.fr.
Valérie Darmon, grande douceur dès ce matin pour tout le monde.
Absolument, avec déjà 19 à vos thermomètres à Toulon, 18 à Nice, 17 à Marignane, 15 à Bordeaux, 14 à Paris et Montpellier, 13 à Tours, 12 à Lyon, 11 à Clermont-Ferrand, 10 à Ville, 9 à Strasbourg. Tout cela sous un soleil magistral dès qu'il va se lever d'ici une petite heure à peu près sur la moitié nord. Quelques nuages au sud avec quelques averses. D'ailleurs, actuellement, il y a un peu de pluie sur Millau. Il y a du brouillard aussi à c'est assez peu dense sur Caen qui va se dissiper très très vite. Et puis Vincent, en Picardie, dans l'Aisne, qui était sur son tracteur hier et dont Justine nous disait qu'elle ne comprenait pas trop bien le fonctionnement, vient nous envoyer une vidéo pour nous expliquer
c'est
comment
plus
ça marche.
Maintenant.
Elle
ne
comprenait
bonjour.
Pas le fonctionnement du tracteur.
C'est ça,
non,
c'est ça.
Il y a beaucoup de boutons. Il y a comme un avion.
Voilà, il était très élaboré. Alors bonjour Vincent, sur le hashtag Europa, vous nous dites qu'il fait 11 actuellement dans l'Aisne. Alors, bien, travaillez bien. Comme
oui,
vous,
parce
d'ailleurs.
Que, oui, non, voilà, mais de toute façon, les agriculteurs, ils bossent tous les jours dès que le temps le permet. Vous avez plus de tweets ?
Bien sûr, Vincent nous dit « Belle journée à vous, température douce à Villiers-sur-Mer, 10 degrés, donc pas mal du tout, courage à tous. » Ou encore Mia Dram, ravi de retrouver comme tous les week-ends l'équipe de Bernard Poirette. Bonne écoute et bonne journée à tous.
Merci, merci beaucoup. Par SMS, j'ai plusieurs auditrices, en l'occurrence Myriam à Nancy, Flavienne à Reims, Audrey qui est à Nemours, qui nous souhaite un excellent dimanche de Pâques. Elles sont déjà réveillées et Audrey est en train de manger un œuf en chocolat. Voilà.
Qui
lui a été offert par son chéri, me dit-elle. Audrey, je vous remercie parce que je sais que c'est vous qui m'en avez envoyé en plus des œufs en